Si je vous dis 14 janvier 2011, qu'est-ce que cela vous évoquerait ? Pour certains, c'est juste une date parmi tant d'autres. Mais pour les Tunisiens, c'est une date clé de l'histoire de leur pays, peut-être même le premier jour d'une nouvelle histoire. Il y a 3 ans, les Tunisiens laissaient exploser leur colère dans la rue, faisant d'eux les premiers révoltés du printemps arabe. Certains parlent d'anniversaire, et pourtant, l'heure n'est ni au cadeau, ni aux bougies. Loin de l'euphorie collective suscitée par la fuite du président Ben Ali, l'heure est aujourd'hui à la reconstruction. À l'occasion de cette date historique, nous verrons à travers 3 portraits de Tunisiens habitant Montpellier où en est vraiment la Tunisie. Des récits honnêtes entre déception et désillusion, mais qui laissent entrevoir une infime lueur d'espoir. يا غصنك مناحت عليك بلابل البدر يكمل كل شهر مرة وهلال وجهك كل يوم كامل. Et pour commencer à dresser ce tableau de la Tunisie nouvelle, commençons avec ce portrait d'Osni, un jeune étudiant en médecine fraîchement arrivé de Tunis il y a 6 mois. Il voit déjà son avenir loin, le plus loin possible de sa Tunisie natale. Donc pour commencer, qu'est-ce qui t'a fait venir ici à Montpellier pour tes études ?
Oui, en fait, la qualité de vie, c'est meilleur. Surtout l'enseignement, il est de meilleure qualité. Et du coup, j'ai bien choisi la France en premier pour terminer mon processus
universitaire.
Ouais, voilà.
D'accord. Et ça va, tu t'y plais à Montpellier ?
Oui, sauf que c'est un peu calme, genre en fait, on s'est habitué à la guerre entre parenthèse en Tunisie, donc là c'est vraiment calme, c'est très cool quoi, genre c'est ça.
D'accord. Et pourquoi avoir choisi Montpellier spécialement ? Est-ce que c'était pour garder un œil sur la Tunisie de la Méditerranée ?
Non, en fait il y a la fac de, enfin c'est la fac qui m'a incité de venir ici, genre j'avais pas vraiment un choix particulier de Montpellier.
D'accord. Avant-hier, on fêtait l'anniversaire de la...
Oui, de la Révolution, ouais, c'est
oui,
ça
c'est
en fait.
Ça. Et toi, c'est quoi ton avis sur ces 3 années de révolution en Tunisie ?
Genre, oui, je trouve qu'il n'y a pas vraiment une amélioration vis-à-vis du pays et du peuple, parce que la vie, est demeurée pire, genre... un peu genre la plus chère, genre il y a plus le calme, il y a plus la paix, tu ne peux plus sortir seul le soir sans voiture, genre c'est ça en fait, l'état du pays c'est de mal en pis, genre.
D'accord. Donc toi tu préférais l'époque
Ben Ali, oui.
D'accord.
Franchement oui, sans hésitation, genre si maintenant il va revenir, je serais...
Ah ouais.
Ouais, carrément. Ouais, ça sera cool, ouais.
D'accord. Pour toi, c'est quoi le bilan de cette révolution ? Parce que on sait que actuellement la constitution tunisienne est en train d'être rédigée.
Mm-hmm.
Donc il y a déjà eu quelques progressions, notamment dans les droits des femmes. Donc par exemple comme le droit d'avortement qui avait déjà été fait auparavant par Bourguiba. Donc il a été gardé, mais il y a encore du chemin à faire au niveau de la constitution.
Ouais.
Donc toi,
un long chemin en fait.
Comment tu vois l'avenir de la Tunisie à travers cette constitution ?
En fait, si Nahda va rester, en fait, ça va pas être la fête en Tunisie parce que vraiment en fait, il pose des lois.
Des lois qui ne vont pas avec la société tunisienne, en fait.
Absolument, en fait, c'est
d'accord.
Ça.
D'accord. Bon, déjà, rappelons une chose, c'est que Nahda a été évincé du pouvoir puisque le premier ministre était issu de ce parti-là.
Oui, mais ça, en fait, c'est que symboliquement, en fait, c'est eux qui gèrent, enfin, et qui manipulent ceux qui sont maintenant...
Donc, pour toi, Nahda continuera de manipuler les politiques
tunisiens. Absolument. Et en fait, c'est clair, quoi.
Toi, comment tu vis la distance entre toi et ton pays, vu que tu n'es plus en Tunisie ?
Mm-hmm.
Comment toi tu la vis ?
En fait, ici je suis bien dans le calme. Il y a que ma famille qui me manque. Enfin, sinon, il n'y a pas vraiment un truc qui m'invite d'aller en Tunisie.
D'accord. Et donc toi, par exemple, enfin, quand tu termineras tes études, est-ce que tu penses justement à rester en France ou aller ailleurs ou revenir en Tunisie?
Non, 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 je ne reviendrai pas
Tu ne veux
jamais en
pas.
Tunisie, oui.
D'accord. Même si après l'élaboration de cette constitution, la Tunisie venait à être un pays, l'un des rares pays démocratiques du monde arabe.
Non, non, enfin, parce qu'en fait, je suis persuadé que ça ne va jamais se faire. D'habitude, je suis très optimiste, mais pour la Tunisie, vu qu'il y a Ennahda et tout, genre, franchement, il faut être réaliste, ça ne va pas être le bonheur.
D'accord. Et donc, pour un peu clôturer ce débat, pour les anniversaires, on a des bougies avec un gâteau et
Ouais.
on nous dit toujours de faire un vœu. Et toi, quel serait ce vœu pour la Tunisie?
En fait, j'aimerais bien qu'elle soit un pays libre au premier sens du terme, parce que là, en fait, c'est vrai qu'elle est libre, mais il y a toujours des petites lois posées par les islamistes, genre qui gênent la progression du pays.
Et d'après toi, en fait, les islamistes continuent à. Est-ce que c'est des lois qui sont écrites sur
Non, non, en fait, non,
établies?
non, non.
Donc c'est des lois informelles, c'est-à-dire
Oui,
que
c'est ça, en fait.
c'est en fait, Ennahda arrive à gérer une partie de la population
Voilà.
tunisienne.
La moitié presque.
Ah oui, quand même. D'accord. Et pourtant, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intellectuels en Tunisie. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que la révolution s'est plus ou moins faite dans le calme, contrairement à la Syrie ou à l'Égypte.
Ouais, voilà.
Mais il y a quand même une partie de la population, notamment dans les villes, les petites villes de Tunisie, les
Oui.
villes de l'intérieur du pays,
Les villes,
qui sont quand même apparemment touchées par le dialogue d'Ennahda.
ouais. C'est comme si en fait ils sont hypnotisés par tout ce qui est Nahda, Islam et tout, genre pour célébrer ça en fait il faut être laïque, genre séparer la politique et la religion. Parce que sinon ça ne marchera jamais. Genre, si on sera laïque, ça sera le paradis sur terre.
D'accord,
Ouais, c'est ça.
d'accord. Donc le fin mot de cette célébration, c'est laïcité.
Laïcité.
Laïcité et liberté pour la
Liberté,
Tunisie.
voilà, liberté.
D'accord. Mais eh ben merci,
Ouais, c'est
Fatmir.
rien, je vous en prie.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Et parlons maintenant de la femme tunisienne qui a joué un rôle central dans la Révolution. Pour nous en parler, Samia Kouadja, femme très active dans le milieu associatif de Montpellier, nous raconte sa vision de la Tunisie et son point de vue sur la femme tunisienne.
Fière d'être une femme tunisienne, c'est une femme quand même modérée, une femme moderne, c'est-à-dire elle s'adapte à tout, elle s'intègre même dans la société, un peu partout, hein, française ou autre. C'est vrai, femme tunisienne, c'est quand même, on parle beaucoup de la femme tunisienne parce qu'elle va vers l'avant, elle a envie d'avancer. Femme tunisienne, c'est femme ingénieure, femme pilote d'avion, on voit bien que les femmes tunisiennes, quand même, elles arrivent, quand elles ont envie d'un objectif, elles arrivent à ses objectifs. Et c'est ça que pour moi personnellement, j'avance depuis 30 ans que je suis en France. D'accord. J'ai créé mon propre association, j'ai créé mon propre emploi, je travaillais dur et c'est vrai, c'est aussi, j'ai appris beaucoup de ma mère aussi. C'est pas parce qu'on est une femme, on se laisse aller, non. Femme, homme en Tunisie, c'est égalité. Ça complète pas l'homme. C'est sûr que je suis pas d'accord déjà. Et c'est vrai, même avec mon époux, on est égalité à la maison. C'est pas parce qu'une femme, c'est à nous de faire le ménage. En Tunisie, la femme et l'homme, c'est égalité. Il n'y a pas de complément de la femme ou la femme comme. Non, c'est ça qui nous fait avancer. Et je trouve que je donne l'exemple à mes enfants. Je vois mes enfants aussi pareil. Ma fille, d'accord, je l'ai appris à d'avancer de sa vie professionnelle. On attend toujours, c'est-à-dire de réussir avant de penser aux hommes. Voilà.
C'est une bonne philosophie. Mais faut quand même rappeler que la femme tunisienne, elle a depuis Bourguiba, elle a quand même une place
assez exclusive par rapport aux autres femmes du monde arabe, notamment grâce au code du statut personnel.
Oui, mais c'est vrai, Bourguiba, il y a des années qu'il a enlevé même le voile de la femme, parce que pour lui, elle avance pas, elle ne peut pas être moderne, elle ne peut pas travailler. Et grâce à Bourguiba, qu'on a de la liberté quand même, on est égalité à l'homme. Et c'est vrai, on n'oublie pas, parce que maintenant on retourne un peu, c'est que le travail qu'il a fait Bourguiba, on le garde toujours, parce que c'est la majorité des femmes en Tunisie. Et je pense que c'est les femmes qui vont sauver la Tunisie, parce que ce qu'on voit des femmes politiques, des femmes qui ont des places très importantes, c'est eux qui traînent de défendre la Tunisie. Et c'est vrai, j'espère d'ici là, enfin, qu'on réussit quand même à gagner. Parce que là, pour le moment, on n'a pas gagné, on n'a rien gagné. C'est-à-dire, pour nous, la guerre, ça va être la guerre. Parce que Nahda, c'est une partie quand même qui a le pouvoir, mais peut pas, je ne pense pas qu'elle va gagner, pas faire grand-chose en Tunisie. Parce que depuis Nahda qu'elle est au pouvoir... On voit rien qui a par rapport aux femmes, hein. Plutôt qu'on voit plus de femmes voilées qu'avant, des gamines, des enfants de l'âge de 5 ans, 6 ans voilées, moi personnel, ça me choque. Parce que d'apprendre à un enfant qui ne sait même pas, c'est un bébé, c'est une fille, enfin, c'est des gamins de 2 ans, un enfant de 2 ans, c'est quoi une fille de 2 ans mettre le voile, c'est n'importe quoi.
Comme vous m'avez dit, il y avait de plus en plus de femmes voilées et tout. Est-ce qu'il y a un nouveau visage de la femme tunisienne qui est en train de se dessiner ?
Le nouveau visage, oui, on va dire oui, mais elle reste toujours l'ancienne. Mais pour moi, personnellement, je vis comme je vis en France, je vis en Tunisie. Il n'y a personne qui va me changer de manière de m'habiller ou de m'obliger de mettre quoi que ce soit. Et puis, c'est vrai, quand j'entre en Tunisie, je suis fière de ce que je fais en France déjà. C'est vrai, la France, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Travailler avec la femme immigrée pour l'intégration des femmes. Et c'est vrai, je suis quand même la seule Tunisienne dans Montpellier qui a fait quelque chose, c'est-à-dire l'image de la Tunisie aussi. Voilà.
Comment vous vivez un peu l'éloignement entre ce qui se passe en Tunisie et vous qui êtes un peu loin de tout ça ?
C'est vrai, c'est difficile, c'est très dur, parce qu'on attend 20 heures pour voir les informations, ce qui se passe. C'est vrai, j'étais très triste, enfin pleurer pour mon pays, parce que je vois que les misères, il y a beaucoup de misère, beaucoup. Parce que c'est vrai, moi je fais des actions humanitaires et c'est vrai, il y a des gens qui me réclament, les hôpitaux me réclament du matériel, les gens, ils ont pas même pour manger, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'aide. Et c'est vrai, quand je vois ce qui se passe à la télé, je dis bon sang, la Tunisie est en train de rentrer contre un mur et je sais pas ce que va arriver à nous sentir, c'est pas sûr. Vous savez, la distance et la souffrance, hein, quand on est loin, quand on s'inquiète pour la famille, quand on s'inquiète j'ai mes amis là-bas, j'ai toute ma famille, puis aussi mon pays, c'est mon pays, ça c'est je l'aime et j'ai pas envie qu'il se dégrade comme ça. C'est vrai, pour moi c'est que je tiens beaucoup à aider la Tunisie, même je suis loin et je rentre souvent pour aider beaucoup de jeunes de quartier, enfin des jeunes de régions sensibles. On a des projets sur la région de Kasserine qui est en train d'aider beaucoup de jeunes de la Tunisie. Voilà. C'est-à-dire que je suis toujours présente.
Enfin, notre dernier témoignage est celui d'un homme chargé d'émotions et de nostalgie qui nous dresse sans concession le nouveau visage de la Tunisie, quelque peu défiguré par ce qu'il ne veut pas appeler une révolution.
Et donc, avant-hier, c'était comme vous disiez, le troisième anniversaire de la révolution tunisienne. Donc,
pour moi, ce n'est pas une révolution. Mm-hmm. Vous savez très bien qu'une révolution a ses repères. Une révolution doit avoir un programme politique, économique et social, et doit avoir un leader ou plusieurs leaders. La révolution tunisienne, ou comme on l'appelle, le printemps arabe, ce n'est pas vrai ça, ce n'est pas une révolution. Parce que c'est vrai, il y avait des conflits, des problèmes sociaux qui se sont transformés en révolution. Mais en réalité, ce n'est pas une révolution.
Donc comment vous appelleriez ça ?
Je ne donne pas une appellation, c'est un phénomène social, purement et simplement.
Et vous en pensez quoi de la Tunisie de maintenant ? Post-14 janvier et de celle d'avant de Souben Ali.
Mais je ne dis pas sous Ben Ali ou sous Bourguiba, mais avant cette révolution, entre guillemets, avant c'était bien. Mais vous pouvez voir les citoyens en Tunisie, même les plus pauvres, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Avant, on était mieux. Il y a la sécurité, il y a l'économie, il y a le travail. Malgré, avant, par exemple, je vous donne un chiffre sur l'emploi. Le chômage était de 13% sous Ben Ali. Maintenant, il y a des régions 50%, 25%, 30%. Les régions ont reculé. Maintenant, le pays est appauvri. Avant, nous avions 6 mois de réserve à la Banque centrale. Vous savez très bien c'est quoi 6 mois de réserve à la Banque centrale. C'est-à-dire, nous pouvons importer des matières premières pendant 6 mois sans avoir recours à l'endettement ou à l'emprunt. Maintenant, il y a 2 ou 3 jours, j'ai entendu parler que nous avons 25 à 30 jours, qu'aucun pays, aucune instance internationale ne veut emprunter pour la Tunisie, prêter pour la Tunisie de l'argent. C'est au bord de la ruine, la Tunisie. Heureusement, il y a des compétences, il y a l'intelligence en Tunisie. Et donc, c'est le fruit de la politique de Bourguiba. On est arrivé maintenant à se maintenir parce que nous avons une administration, parce que Bourguiba a instauré un système, a instauré une administration, il a formé les jeunes, il a misé sur les jeunes et sur l'enseignement. Et maintenant, si on récolte le résultat de la politique de Bourguiba, rien d'autre.
D'accord, donc quand même, quand on voit un peu par rapport au printemps arabe comment ça se passe en Syrie ou en Égypte, on voit qu'en Tunisie, je dirais pas que ça s'est passé dans le calme, mais quand même, ça s'est pas passé dans la...
C'est la différence, parce que je viens vous dire que nous récoltons le fruit de la politique de Bourguiba, parce que à l'époque de Bourguiba, l'enseignement était massif, gratuit, obligatoire. Si par exemple vous n'envoyez pas votre enfant à l'école, vous serez puni, vous serez jugé au tribunal. À l'époque de Bourguiba, Ben Ali a continué le même système, bon, avec quelques différences.
Et maintenant,
on continue. On ne peut pas revenir en arrière sur plusieurs choses, mais sur le plan économique et social, c'est pas un grand point d'interrogation. On ne peut pas comparer la Tunisie à la Syrie, ni à la Libye, ni à aucun autre pays. Parce que le système, parce que Bourguiba a mis la Tunisie, depuis l'indépendance, sur l'orbite de l'Occident, pas sur l'orbite de l'Orient. Vous me comprenez ce que je veux dire ?
Absolument.
Voilà. Après la Tunisie, vient l'Algérie. Parce que l'Algérie, le premier président algérien a fait ses études en Tunisie. Il était l'ami à Bourguiba, Ben Balla. Ahmed Ben Balla. Bon, malheureusement, il n'a pas beaucoup... l'Algérie, mais après Boumediene, il était élève à Jamaa Zitoun, à la mosquée Zitoun. Donc c'était, il s'est inspiré de la politique du Bourguiba, mais avec une grande différence.
La sauce militaire.
Voilà, et lui il était militaire, et Bourguiba, les militaires, c'est dans la caserne, les militaires. C'est pas dans.
C'est une, quand même, on doit dire, des qualités de la Tunisie, c'est que l'armée est restée républicaine et qu'elle est restée.
Mais c'est une formation. Après 50 ans, on ne peut pas sortir de l'ordinaire, on ne peut pas sortir de Bourguiba. D'abord, les militaires et les policiers ne sortent pas de leur fonction, ils ne font pas la politique. Avant, ils ne votaient pas, ils n'ont pas de syndicat. Bon, maintenant, ça change. Maintenant, bon, les militaires n'ont pas de syndicat maintenant, mais les policiers, maintenant, ils ont un syndicat. C'est à peu près comme la France.
Ouais.
Oui. Donc, voilà.
Et moi, j'aimerais savoir, vous, en étant un peu... en étant en France, comment vous vivez la situation de la Tunisie en étant à distance par rapport à votre pays ?
Non, moi, malgré que je suis en France, je suis en même temps en Tunisie. Parce que mes racines sont en Tunisie. Je me suis formé en Tunisie. J'avais vécu en Tunisie 35 ans. Voilà. Donc, j'étais un peu partout dans les responsabilités. Je connais bien l'administration tunisienne. D'ailleurs, j'étais administrateur en Tunisie. Donc, je sais très bien quoi. Maintenant, malheureusement, pour être franc avec vous, il y a une seule chose qui est... a changé en Tunisie, c'est la liberté d'expression. La liberté, mais avec beaucoup de réserves, parce que maintenant, avec la liberté d'expression, on ne se respecte pas. On dit n'importe quoi. et n'importe comment.
Ça se voit ici en France ?
Moi, je suis contre. Je suis avec la liberté d'expression, mais avec le respect des autres. Maintenant, ce qui ne se passe pas en Tunisie. Regardez, parfois dans l'Assemblée constituante, il y a le bagarre. C'est comme en Italie il y a 10 ans, comme en Égypte il y a 15 ans. Moi, je suis contre ça. Je suis dans la légalité, la loyauté, tout ça.
Et il y a actuellement une Assemblée constituante en Tunisie qui est en train de rédiger la Constitution.
C'est un faux problème.
Qui traîne.
C'est un faux problème, parce que nous avons la Tunisie, c'est parmi les premiers pays au monde qui avaient la Constitution. Et nous avons la Constitution de 1959, que des militants l'ont fait. Des militants, ils n'ont jamais eu un sou. Au contraire, ils ont payé, ils ont contribué. Ils ont fait la Constitution de 1959, c'était des militants. En plus, ils ont payé de leur poche. Maintenant, la Constitution nous coûte 140 milliards de millions. À peu près 70 millions d'euros pour rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, ils auraient dû rectifier ou modifier quelques articles qui ont été touchés. Et c'est tout. Donc comme ça, on gagne 3 ans.
Parce que ça fait quand même longtemps que ça traîne, cette histoire
de... Oui, ça fait 3e année maintenant. Ouais. Or, une constitution, on peut la faire... Surtout, nous avons le statut, nous avons la constitution. Et nous avons des professeurs universitaires spécialisés dans le droit constitutionnel, qui peuvent faire la Constitution en une semaine, 15 jours. Nous avons de grands professeurs, de grands intellectuels qui sont formés en France et ailleurs, et en Tunisie. Donc c'est une perte de temps. Ils ont noyé, oui, l'administration, ils ont noyé tout le pays. Moi je dis, le pays est en deuil, en catastrophe. Regardez de temps en temps les jeunes. Nous avons 65 000 étudiants. Nous avons à peu près, je ne sais pas, le chiffre m'échappe maintenant, mais nous avons beaucoup d'étudiants qui ont leur diplôme. Malheureusement, ces diplômes pour moi ne valent rien, ne vaut rien. Pourquoi? Parce que le niveau est trop bas. Il est trop bas. Je connais des maîtrisards qui ne savent même pas conjuguer un verbe, l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être. De quel enseignement, de quel diplôme parlez-vous, de quel chômage de diplômés? C'est un faux problème, c'était gonflé. C'était Ben Ali qui l'a fait ça. Il était conseillé par des gens autour de lui, mais c'est un faux problème. Moi, un maîtrisard, c'est-à-dire Bac plus 4, ne sait même pas conjuguer l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, pour moi, c'est un vaut rien. C'est zéro. C'est nul. Voilà.
Maintenant, quel avenir vous voyez pour la Tunisie?
Je ne suis pas trop pessimiste. Parce que de ma formation, de ma constitution, je suis optimiste. Mais ce n'est pas pour, comme Hadi Bourguiba, ce n'est pas pour demain. L'optimisme, ce n'est pas pour demain. Au moins, il nous faut 10 à 15, 20 ans pour revenir à la situation que Ben Ali l'a laissée.
Et pour terminer sur ces témoignages éclairés, nous leur avons demandé, comme à tout anniversaire, de faire un vœu. Un vœu pour la Tunisie.
En fait, j'aimerais bien qu'elle soit un pays libre.
De vivre en paix, de vivre tranquille dans notre pays quand je rentre pendant les vacances, c'est-à-dire même pour mes enfants, de voir le... Enfin, parce que c'est vrai, mon souhait que les salafistes et tout ce qu'ils ont fait du mal à notre pays, à mon pays, enfin, de les éliminer, pour vivre en paix et vivre tranquille, parce que c'est vrai, les gens, ils ne sont pas... Et aussi d'avoir... On n'a pas en sécurité en Tunisie actuellement. Il n'y a pas de sécurité, c'est-à-dire qu'on n'est pas... le soir, il ne faut pas, voilà, de sortir le soir comme d'habitude, c'est-à-dire 3h, 4h du matin, il n'y a personne qui peut nous embêter, qu'actuellement, on ne peut pas. Voilà, d'avoir la liberté aussi, parce que maintenant, on n'est pas libre comme avant. D'accord, on a toujours le risque, on vit dans la peur. Voilà, c'est de vivre tranquille et en paix, puis... qu'on s'inquiète pas pour nos enfants ou pour l'avenir de nos enfants aussi.
Ça serait quoi votre vœu pour la Tunisie? Si vous lui souhaitez.
Le rétablissement le plus tôt possible. La sécurité, l'essor économique, parce que c'est possible l'essor économique en Tunisie. Nous avons des jeunes qui peuvent, des jeunes et des compétences qui peuvent, en une année, 2 ans, faire rebondir la Tunisie. Oui. Parce que, et surtout, la jeune fille, je n'ai pas parlé de la jeune fille, parce que chez nous, homme ou femme, c'est kiff. Hein.
Oui.
Donc, il y a des hommes, il y a des femmes, des compétences. Regardez maintenant la justice, elle est tenue par des femmes, elles combattent. Vous regardez les informations en Tunisie. Vous voyez le syndicat des magistrats.
Ils sont en train de manifester.
Ah oui, ah oui. Et ça, c'est le fruit du Bourguiba. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tout est destiné. Je clôture par Bourguiba qui s'est dit, le mal ne vient pas de l'étranger pour la Tunisie, parce qu'il a confectionné un pays vraiment fort. C'est de l'intérieur.
مهملنا ما شقينا ما خليه.